Aujourd'hui, dimanche 24 mars, je vais bien. Enfin bien, mais je vais pas mal. Le pape n'a pas accepté la démission du cardinal Barbarin, ça s'est passé cette semaine. Mais il a raison, c'est mieux de garder un type comme ça. C'est bon pour l'image de l'église. Un cardinal qui a couvert pendant des années les abus sexuels d'un prêtre sur des enfants, je trouve ça plutôt bien vu. Sinon, en début de semaine, Emmanuel Macron, notre cher président, a réuni 64 intellectuels à l'Élysée. Il a parlé non-stop pendant 8h10, sans faire une seule pause, sans boire d'eau, sans même tituber une seule fois. Dans la foule, il paraît qu'on a assisté à des scènes d'évanouissement, des crises d'épilepsie, quelques décès, je crois. En tout cas, parler 8h10 non-stop, cette fois, je crois que c'est clair, Emmanuel Macron et dopé. Sinon, à part ça, Radio France, c'était la semaine Interclasse. Interclasse, ce sont des enfants qui viennent participer à des émissions de radio et découvrir les médias. Une belle initiative. Des hordes de mioches avaient envahi la maison de la radio. C'était insupportable. Moi, les enfants, quand ils sont en masse, ça me fout les jetons. Ça traîne des pieds, ça ricane. Mercredi, j'en ai frappé deux. Pourquoi ? Pour me détendre. Heureusement, aujourd'hui est une journée plutôt très très cool. C'est la journée mondiale contre la tuberculose, mais pas que. C'est aussi la journée européenne de la glace artisanale. Alors, si vous voulez fêter les deux, vous pouvez toujours manger un Esquimau en toussant. Alors, pour conclure, n'oubliez pas, chers amis, de célébrer les 85 ans d'un homme d'exception. Oui, d'un homme qui a rendu au brushing, au bigoudi et à l'après-shampoing ses lettres, leurs lettres de noblesse. Bon anniversaire, Jean-Louis David. Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes. Attention, le rendez-vous des invités exceptionnels. Et pour m'accompagner, un homme exceptionnel tout autant. Il a tous les talents. Albert Algou, comment allez-vous, cher ami?
Je vais d'autant mieux qu'une fois de plus, vous me complimentez. Alors, le printemps est là depuis quelques jours.
Oui. Depuis mercredi.
Ça a été mon anniversaire il n'y a pas longtemps. C'est donc vrai. Je jubile d'autant plus que vous accueillez deux invités exceptionnels dont je n'ai pas le droit de dire le nom tout de suite.
Ah! Très bien, eh ben, cassons le suspense dès maintenant. Oui, c'est bien mérité. 51 ans.
Je
ne les fais pas.
Non.
Un vrai jeune homme. Et ses invités en ce dimanche 24 mars sont...
France Inter, Vous les femmes, Daniel Morin.
Musicienne, auteure, compositrice, interprète, mannequin, comédienne, styliste, dessinatrice. Elle vient nous voir pour parler de son troisième album, Soliloquie. Bonjour et bienvenue à vous, Loudoyon.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va bien, merci.
Ravie de vous avoir parmi nous.
Je suis très contente.
Il a failli avoir un petit problème. Vous êtes venue avec un ami, à quatre pattes.
Oui, et en fait, il est interdit. Il n'a pas le droit de venir. Si.
Il est reparti à quatre pattes, d'ailleurs.
Bah ouais, fiché S.
C'est incroyable, ils autorisent Daniel à rentrer dans ces bâtiments. Et votre chien, non, il ne peut pas. C'est incroyable.
Vous savez, c'est très administratif ici, c'est très procédurier. Fallait appeler avant, lui faire faire un badge, il serait peut-être passé.
C'est ça, c'est con parce que j'aurais bien aimé un petit badge, ça aurait été bien un badge. Mais non, il n'a pas mal pris, il boit des coups aux ondes.
Il boit des coups aux ondes, les ondes, le dernier studio Radio France qui est juste en face en traversant, avant de se jeter dans la Seine, juste de l'autre côté. Face à vous, cher Loudoyon, comédienne, metteuse en scène, clown, danseuse, chanteuse, elle vient nous présenter Garden Party, un spectacle inclassablement génial. Bonjour et bienvenue à vous, Charlotte Saliou.
Ouais, merci beaucoup.
Est-ce que ça va mieux ?
Oh oui, beaucoup mieux. Non, j'ai dégonflé. Hein.
On explique tout de suite de quoi il s'agit. Vous êtes pris un décor en pleine gueule.
Oui, j'ai pris un décor
drôle,
en pleine gueule. Samedi, voilà. Alors, je fais des dérapages contrôlés et des vols planés. Et une de mes collègues qui était elle-même en train de décoller et de voler de son portique, elle a déplacé une table. Enfin, vous voyez pas bien tout ça, mais visuellement, ça s'explique très bien. Elle a déplacé une table gentiment. Elle a un petit peu anticipé son mouvement. C'est pas de ta faute, Suzanne. Hein. Et moi, je me suis dit, tiens, elle a déplacé la table trop tôt. C'est pas grave, je fais quand même mon gag, sauf que la table était près du décor de la personne qui joue après nous. Et comme nous, on a un rideau qui cache le décor de la personne qui joue après nous, et ben, je me suis pris ça dans la pommette. Voilà. Je commence à être bien abîmée, mais qu'est-ce qu'on se marre ?
Nous aussi, dans le public. En tout cas, cet œil de verre vous voit très bien. Merci de l'avoir
mis
pour venir nous voir.
Ça se voit,
aujourd'hui.
Pas trop quand même.
Alors, une présentation un peu sommaire, les amis, pour vraiment mieux vous connaître. Vieux, oui, c'est le cas. Bon anniversaire, Albert. Pour mieux vous connaître, je vais laisser la parole à un ami, cousin d'un célébrissime, ancien ministre de la Culture. C'est à vous, Jean-Jacques Lang.
Hello, vous les femmes, vous aussi les coms, et salut à toutes et à tous les autres, de quelque genre qu'ils et qu'elles se prévalent. Et bien sûr, bonjour à vous, Daniel.
Bonjour.
Un bonjour d'autant plus joyeux qu'en ce premier dimanche de printemps, alors que la nature se met enfin à la fête, tandis que les premiers bourgeons tout poisseux d'une sève trop longtemps comprimée sont sur le point d'exploser, alors que s'en trouvent les pétales pâmés et que les pistils gorgés de pollen vont bientôt s'offrir à la gourmandise des abeilles les butiner pendant qu'ils étaient.
Revenez à l'essentiel, s'il vous plaît, Gigi. Alors, un bonjour d'autant plus joyeux, disiez-vous, mais plus joyeux que quoi?
D'autant plus joyeux, Danielito, que je me fais une fête d'écouter vos invités. Deux artistes dont les prestations font courir le long de mon échine le frisson électrisant de l'émotion artistique. Oui, j'ai été touché, émotionné, impressionné, remué, retourné, transporté, ébranlé, emballé,
continuez,
des tas de trucs en lait. Oui. Bref, j'ai kiffé ma race, votre album, cher Loudoyon, Soliloquy, en français Soliloque, en anglais Soliloquy. Comme vous savez, je suis trilingue même. Comme vous savez, un soliloque est le discours d'une personne qui se parle à elle-même. Ce qui est souvent votre cas, très cher Daniel, même si, en ce qui vous concerne, c'est plutôt l'intempérance, l'abus d'alcool qui explique que vous soliloquiez. Alors vous me direz, Danouchki, quel est le dénominateur commun entre Loudoyon et Charlotte Saliou?
J'allais effectivement vous poser la question.
Eh bien, c'est tout simplement que soliloque rime avec sinoque.
Un peu péjoratif, non?
Mais pas du tout! Quel esprit terre-à-terre, ce Daniel. Vous êtes cynique, vous, mais les vrais artistes sont complètement cynoques. Elles se moquent des normes et subvertissent tous les conformismes. Ce que fait avec brio Charlotte Saliou dans Garden Party. Un titre qui m'enchante d'ailleurs, Garden, le jardin, Party, la fête, bref, la fête dans le jardin, synthèse idéale entre culture et horticulture. Ceci dit, il existe une autre synthèse harmonieuse entre culture et horticulture, c'est la capilliculture.
Un peu tiré par les cheveux, Gigi.
Mais tu crois pas si bien dire, en ce jour anniversaire de Jean-Louis David, qui fête ses 85 ans et qui ne les fait pas comme moi, la pousse, la taille, l'entretien du cheveu, le décollement des racines, voilà qui tient de l'horticulture. Quant à l'art capillaire, proprement dit, comme celui pratiqué par Jean Patou, mon shampooineur paysagiste chez Zouzou Coiffure, cela tient de la culture. Alors à ce propos, pour terminer, un conseil de beauté, conseil beauté on dit même, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et dont on peut dire de leurs cheveux, ce qu'on dit des miens, c'est pas du poil, c'est du crin. Je recommande non pas un traditionnel gel fixation forte à effet mouillé, mais carrément, oui, carrément, la super glue à prise ultra rapide, flexible et anti-choc. Voilà, bonne émission, bonne coiffure. Vive Jean-Louis David.
Merci Gigi pour cette belle présentation. Maintenant, évidemment, on connaît mieux nos invités Loudoyon et Charlotte Saliou. Loudoyon, Too Much, extrait de son dernier album, évidemment. Dernier album dont France Inter est partenaire. Et oui, on vous écoute très très souvent. On a l'impression de vous avoir tous les jours avec nous.
Oh, I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some sir. Find the way, but me, yes, I come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. Must be something deep within that I need to prove to you. Maybe I'm not what you expected to find. Yes, I'm all out on display, and what I've spent a life together. In a night I'll give away. Yes, in a night I'll give away. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth. And I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glance it comes quick to the mouth. And I go on and on. Sometimes just like the rest of us. You can see me come a mile away. You can see me come a mile away. Or you can see me come a mile away. 'Cause I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to
to swing open the door. Is there something that I'm missing? Or is it too much that I'm showing? I know some say find the way but me.
Too much, Lou Doyon sur France Inter.
Vous les femmes, Daniel Morin sur France Inter.
Nous sommes en très bonne compagnie, on vient d'entendre Too Much, extrait de Soliloquy, troisième album de Lou Doyon, ouais bah tout hein, chez Barclay Universal.
Once again, it shakes, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just what you're.
Et pour accompagner Lou, nous avons Charlotte Salio pour le spectacle ahurissant Garden Party, mis en scène de Monsieur Pavlatas au Théâtre Antoine. C'est jusqu'au 13 avril, c'est bien cela?
Absolument. Et d'ailleurs, tu m'as appelé tout à l'heure Charlotte Salio, ça ne veut rien dire, hein. C'est Charlotte Salio.
Salio, S-A-L-I-O-U. Comme ça, Liu.
Mais il a des problèmes d'articulation, hein, faut
l'excuser. C'est pas vrai.
Mon orthophoniste est en vacances depuis trop longtemps. On va revenir sur quelques dates qui ont émaillé vos parcours brillants, mesdemoiselles. On commence par vous, Lou, si vous le voulez bien. On commence en 1988. Première apparition au cinéma, c'était pour Kung Fu Master.
Tu veux dormir en haut ou en bas?
En bas. Non, en haut.
En haut? Allez, viens. On est fatigué.
Ah, il y avait du texte?
Eh ouais.
Mais c'était mignon, vous en gardez quoi comme souvenir?
Ben, ce qui était joyeux et chanceux, c'était de commencer avec l'incroyablement singulière et folle Agnès Varda. Donc j'ai un souvenir d'elle. Je me souviens assez peu de l'équipe ou des gens autour, mais un souvenir d'elle et d'elle qui est pétillante et amusante. Là-dessus, elle me fait penser à mon père, qui est une vraie. C'est très compliqué de savoir ce qui est de l'ordre du jeu et ce qui l'est pas. Donc c'est comme des enfants, une telle euphorie de vouloir jouer que moi j'étais toute petite, je vais avoir 5-6 ans, et elle m'a traînée sur la plage en me disant que ma famille m'avait abandonnée, qu'il y aurait plus personne qui viendrait me chercher. Donc j'ai commencé à être en larmes,
un peu
très mignonne, elle a dit moteur. Et elle est partie en courant, et ça, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, qu'il se passait quelque chose, et à pleurer beaucoup, beaucoup, et à la fin, que tout le monde était quand même très content, que j'avais très bien pleuré. Je pense que le début des grandes névroses d'actrice commence là.
Bravo, ma chérie, tu as très bien pleuré.
Voilà, qu'on se dit, ah, ouais, quelle étrange personne, et quelle joie, encore aujourd'hui, c'est mon baromètre de la curiosité, Agnès. Et je croise rarement des gens plus jeunes.
Première apparition au cinéma dans Kung Fu Master et premier rôle, c'est en 1998, c'est pour Mauvaise Fréquentation. Ouais. On change de niveau.
Oui, c'était fou, c'était assez. J'ai eu de la chance. Alors après, ça a été un peu mon destin, mais c'est un désistement d'actrice en fait. La majorité des films que j'ai fait, c'était des désistements d'actrice.
Donc, c'est comme Daniel, hein, pour la radio.
Donc j'ai reçu. On m'a appelé 4 jours avant. Et je suis partie avec un sac à dos, très excitée, je connaissais personne. Je suis arrivée dans la belle ville de Grenoble, et puis on a tourné pendant 2 mois et demi. Et après, c'était assez rigolo, parce que j'étais la seule accompagnée par la DAS, nuit et jour, parce que j'avais 15 ans, en fait. Tous les autres acteurs avaient 16 ou 17 ans.
Comment ça se passe? On a un chaperon?
Mais j'avais le droit de tourner que certaines heures du jour ou par jour. Donc évidemment, on m'agouillait pour que je tourne plus, mais j'avais un discours à dire si jamais la DAS dépoulait sur le plateau, en disant que j'avais bien le droit de rester là si j'avais envie, juste pour regarder. Et en fait, c'était dingue. Il y avait Micheline Prel, il y avait Maud Forger. Enfin, c'était assez fou. Et c'est vrai que le film a eu un énorme succès. Alors après, ce qui était drôle, c'est qu'effectivement, j'étais déjà très grande quand j'étais ado. Donc il y avait plein de gens assez malveillants, disant mais c'est dégueulasse, elle est pistonnée, ça se voit qu'elle a 18 ans, ça se voit qu'elle est majeure, ça se voit qu'effectivement, mais non, j'ai 15 ans, mais je suis une sorte de grande tige plate, ado à dreadlocks, quoi, une sorte de chose.
La chose du cinéma.
La chose, exactement.
On passe en 2011, le 14 décembre, alors vous êtes dans une cuisine et vous rencontrez quelqu'un en particulier, Étienne Daou. Alors, rencontre déterminante.
Oui, parce que je pense qu'il a décelé quelque chose. C'est quelqu'un qui m'a regardé, en fait, qui m'a vu. Et je pense que de par un agencement familial et un contexte national, on me regarde jamais, en fait. On projette ou on me met quelque part. Oui, on met une étiquette, mais il y a rarement un vrai regard. Et je pense qu'il a vu à quel point ça allait pas et que j'étais dans une grande, grande solitude et qu'il avait eu écho que je faisais des chansons. Et donc on s'est retrouvés, c'est quelqu'un, on a un peu le même truc, il y a des gens comme ça dans les fêtes où on se positionne comme des chats, on va se planquer dans les cuisines.
Oui, c'est ça, il est comment Étienne Daou, parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un d'assez mutique, qui va être en observation, c'est ça?
Et en fait, on s'est retrouvés dans le même coin. On a choisi le même coin pour regarder.
Mais merde,
qu'est-ce
que je fais dans mon coin? C'était c'est mon ça. Coin, c'est ça?
C'est ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'étais dans un gros Perfecto en cuir où d'ailleurs son dernier album, la pochette, est un hommage au soir où il m'a rencontré, où il me disait que j'étais, enfin, une expression un tout petit peu vulgaire que j'irai pas là, mais en tout cas, voilà, j'étais comme un petit garçon en gros Perfecto dans un coin, et donc il m'a demandé de lui filer mes CD de démos. Mmh. Je lui ai expliqué que j'avais jamais enregistré et que s'il voulait les écouter, il fallait venir chez moi ou que je vienne chez lui avec ma guitare. Il est venu chez moi. J'ai dû me descendre une demi-bouteille de vodka avant de pouvoir oser lui chanter une chanson. C'est comme Étienne Dao, donc ça fout la trouille tout ça. Et puis je lui ai chanté des chansons et il m'a appelé le lendemain avec le meilleur argument du monde qui était que j'avais pas du tout envie de les enregistrer. Ça avait été assez violent comme ça dans les autres métiers pour avoir pas envie de partager ça. Et puis lui, très joliment, le lendemain m'a dit « Écoute, il faut que t'enregistres tes chansons ». Je dis « Certainement pas ». Il me dit « Si, parce que tu vois, moi je les ai en tête et c'est frustrant de pas pouvoir les entendre ». Et j'ai dit « non, genre ». Et il a chanté une mélodie que je lui avais jouée la veille. Et je me suis dit « Bon, si c'est la chanson qui tient ». Alors c'est ça qui compte. Et puis donc pendant 2 ans, il m'a malaxé le cerveau pour que j'accepte
à l'usure.
Et puis effectivement, tout cet album, tout ce premier album qui a changé ma vie et grâce à lui.
Voilà l'album Places, produit par Étienne Dao. So many questions, but many less answers. I seem to leap from doubt to doubt, like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this space, these hands. Not familiar, but strange. Question and Answer, extrait de l'album Places, et c'était assez rare pour le souligner, c'est victoire de la musique comme artiste-interprète de l'année pour un premier album, c'est extrêmement rare.
On est deux
de l'avoir fait.
Ouais.
Voilà.
Ouais, on est
vous
deux.
Et Vanessa Paradis.
Et encore, moi, il y a eu une grande angoisse quelques semaines avant. Bon, déjà, moi, j'étais sûre et certaine que la question se poserait pas, vu que j'étais face à Céline Dion et Françoise Hardy. Donc, moi, je riais sous cap, comme on dit, en sachant que c'était plié d'avance. Mais non, le litige, c'est que je chante en anglais. Donc, d'un coup, il y a eu une panique de est-ce qu'on pouvait donner un prix pour une artiste qui chantait en anglais. Parce que ça, c'était jamais arrivé. Donc, moi, je riais en pensant que de toute façon, ça ne se poserait tellement pas comme question. Mais c'est vrai que quand je l'ai eu, j'étais très fière d'apprendre que on est deux.
Un album chanté en anglais, ça n'empêche pas d'avoir un partenariat avec la radio publique française. Oui,
absolument,
madame.
Absolument, et j'en suis très fière.
Partenariat France Inter. On passe en 2017. Tournée Three Rings Circus. Et un soir, à Sheffield, Richard Hawley vous dit, ici, soit on t'applaudit, soit on te balance des bières à la gueule.
Ouais.
Et alors, ça a été un moment déterminant?
Oui, alors déjà, Richard Hawley est quelqu'un de divin. Et moi, je suis toujours émue quand je repars en Angleterre parce que n'importe qui vous appelle Love, ouais, ce qui est quand même génial. Donc, n'importe quel taxi, How are you, Love? Where are you going, darling? Donc, il y a quelque chose de très joli. Lui, il m'appelait Kid, ce que j'adore. Donc, je disais, Hey, Kid. Donc, tout de suite, on a l'impression d'être dans un film des années 50. Et donc, effectivement, il me dit, il m'avait fait faire ça en France, en fait. C'est une idée très anglo-saxonne que les Français, d'ailleurs, ont eu du mal à comprendre, qui était 3 concerts dans 3 lieux différents, par 3 artistes différents, le même soir. Ce qui voulait dire que nous, on cavalait d'un lieu à l'autre. Et ce qui était assez joli, c'est que je faisais la première partie, mais la fois d'après, c'était lui qui faisait ma fois première partie. Et le 3e concert dans la soirée, forcément, il clôturait. Enfin voilà, tout le monde bougeait.
Tout le monde tournait.
Et on a fait ça à Sheffield, qui est donc une ville ouvrière au nord de l'Angleterre, et qui est une ville de musique, surtout, qui est près de Manchester. Et la musique, là-bas, c'est quand même très, très sérieux.
Oui, c'est tout le nord, c'est très industriel, mais
absolument,
à côté de ça, c'est très, 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 très musical.
De la musique,
ouais, ouais.
Et,
comme
et
Liverpool
ils ont
aussi.
Des, exactement, ouais. Et ils ont des artistes merveilleux qui viennent de chez eux. Donc, effectivement, grande trouille. Et puis, donc là-bas, on m'a demandé de jouer dans un pub, dans une église, et dans un entrepôt, avec donc Richard Hawley, qui est une star locale là-bas, enfin qui est une star nationale, mais qui en plus vient de là, et avec un autre chanteur qui était John E. Grant, qui lui pareil, superstar sur place. Donc je me suis dit que je partais à l'abattoir, mais, mais j'étais assez contente en me disant que voilà, au moins je saurais. Je saurais si je monte sur la table et que je commence à chanter, si les gens se taisent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose et que c'est peut-être pas juste pour des raisons extérieures. Donc j'avais besoin de me prouver ça. Et c'est vrai que ça s'est super bien passé.
Besoin de s'y frotter. en fait.
Ouais, de faire. Moi, j'ai fait un premier album avec Étienne Dao, et c'est vrai que ma première tournée, mon premier concert de ma vie, c'est à la Flèche d'Or, et c'est complet, et les gens connaissent déjà les paroles, donc c'est un parcours étrange. Donc c'est vrai que c'est un parcours. J'ai jamais eu à ce que les gens dans le pub se taisent. Là, en Angleterre, ce qui était génial, c'était personne ne sait qui vous êtes. Je montais sur une sorte de scène, enfin improvisée. On s'accorde devant tout le monde parce que tout le monde s'en fout un peu, et puis on doit brailler pour être entendu.
Oui, mais parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment des villes et des gens qui vont dans les pubs, qui aiment la musique. Et
absolument.
Qu'on fasse les balances, qu'on s'accorde, tout ça, ça fait partie du truc.
Ça fait partie du truc, et les gens sont là à boire des bières, demander quel genre de guitare c'est, si on a open tuning ou pas, s'ils peuvent. Enfin, c'est assez
fou. La plupart ont un peu joué quand ils étaient un peu plus jeunes.
Évidemment, beaucoup ont joué. Et c'est vrai que j'ai survécu, qu'il était très content en disant « Well done, kid !» Et qu'à la fin, il m'a donné un grand cadeau de la vie, où il m'a fait répéter comme dans une sorte de Pygmalion à l'envers. Il m'a dit « There's one thing you gotta learn !» Alors j'ai dit oh, « What is it, Richard ? Qu'est-ce qu'il faut dire ?» Il m'a dit « Repeat after me !» On était bien bourrés en train de manger des fish and chips vers 1 ou 2 heures du matin. Et je dis « What ?» Il dit « You gotta say it every morning !» Je dis « Ok !» Il me dit « Fuck off !» Je dis « Quoi ?» Et il me dit « Et il avait raison !» En attaquant, en disant « Mais t'es trop poli, t'es trop timide !» Et il me dit « Moi, la fille qui est sur scène, c'est elle qui m'amuse. Arrête la petite timidité derrière !» On s'en fout. Je dis oui, mais c'est compliqué parce que j'ai des parents. On s'en fout de tes parents. Je dis oui, mais c'est compliqué parce que est-ce que je suis actrice? On s'en fout.
Moi, je suis bien. Personne ne me connaît. Personne ne connaissait mes parents, ni ne connaît d'ailleurs mes parents à l'heure actuelle. Donc, c'est quand même plus peinard.
Pas encore. Ils n'ont pas dit leur dernier mot.
Oui, attention. Hein.
Ils n'ont pas dit leur dernier mot, tes parents. Oh.
C'est ça, ou même de n'importe quoi. Je pense qu'on est tous habités par un désir, pas forcément de plaire, de pas gêner. Je suppose. Et le moment où ça se libère, c'est quand je suis sur scène. Là, d'un coup, je suis chez moi. Le reste du temps, des fois, c'est vrai que c'est un peu étrange.
Non, c'est un mélange de plusieurs choses aussi. Ça peut être de la pudeur, de...
Plein de choses. Bien sûr, qui habitent plein de gens. Je pense que c'est pour ça qu'on fait des métiers aussi cinglés aussi. C'est qu'il se passe quelque chose sur scène qui peut pas se passer ailleurs que sur scène.
C'est la même chose pour vous, Charlotte. À chaque fois que vous rentrez sur scène, il y a toujours cette... Oui, en général, c'est ça. C'est un quart d'heure, une demi-heure. On se dit, mais où est-ce que je vais? La différence, c'est que vous êtes en groupe. Vous, c'est
non,
une
non,
troupe.
Non, en groupe. Après, moi, j'ai joué un solo que je joue
solo,
toujours.
Solo, mais quand on est seul, oui.
Mais
voilà.
Quand on est seul, ouais. Oui, il y a cette sensation de se jeter dans le vide et quand même sentir qu'on s'accroche au sol et qu'on est un corps et qu'il y a un poids et qu'on fait face à une audience. Et moi, les choses les plus puissantes que j'ai vues, c'est quand j'ai joué en rue, parce que j'ai commencé en rue avec mon solo Jackie Star. Et une fois, je me retrouve programmée dans un festival de rue en plein jour. Donc, tu vois les gens te voient. Donc, tout ce que tout le monde te renvoie, tu reçois tout ça. Et d'être de plein pied, d'avoir tout le monde de plein pied. Donc, plein de gens qui ne te voient pas, qui s'étirent, qui se tordent. Et toi, tu te sens toute petite et tu fais un premier pas et tu sens la puissance des gens qui sont là. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu dis, oh punaise! Une espèce de vertige qui te pousse en arrière et qui fait, tu passes la deuxième et t'envoies sur le patin et tu balances la sauce et c'est une espèce d'explosion avec le public. Donc il y a une chose quand même très puissante en rue. Je pense au cirque, les clowns, tout ça, c'est cette espèce de partage et de choses frontales et une espèce de vibration. Tu plonges dans les gens et tu dois en même temps t'ouvrir pour que les gens rentrent dans toi, sinon tu pourras pas t'en sortir ni les contenter.
Mais sur scène aussi, on voit pas du tout les spectateurs, ils ne vous voient pas du tout. Et là, si. C'est une entrée, c'est où ça passe ou où ça casse.
Bah après, ça dépend. Moi, je sais que j'étais toujours très frustrée au théâtre de pas pouvoir prendre les gens en compte ou pas pouvoir les regarder. Donc moi, je prends un vilain plaisir à regarder. Donc moi, je vois exactement ce qui se passe dans la salle.
À vous regarder avant de rentrer?
Oh, même pendant. Je ne fais que regarder pendant. Et si ça va bien, je demande à la salle allumée pour la fin. J'aime bien regarder, ça me plaît bien, je trouve. Mais peut-être que j'étais prof dans une vie passée.
Vous vous préparez pour une prochaine vie,
de regarder. Je trouve ça émouvant. Et la musique, ce qui est merveilleux par rapport à ce que j'avais connu au théâtre, c'est qu'il y a une retenue et il y a une trouille aussi de la part des gens quand ils vont au théâtre. Moi, quand je faisais une pièce de Beckett avec Arthur Noziciel, je faisais pas la maline sur scène, mais ça faisait pas les malins non plus dans le public. On sent que les gens sont dans un truc, c'est un peu sacré. Si on veut pas éternuer, on veut pas tousser, on veut pas que le portable soit allumé. Enfin, ça demande quelque chose. En musique, ce qui est assez joyeux, c'est que les gens ont leur téléphone, il y a un bar dans la salle une fois sur deux, ça rigole, ça se barre, ça revient, ça roule des pelles. Il y a quelque chose de tellement étrangement désacralisé.
Ça a l'air sympa cette salle, c'est ouf.
Mais moi j'adore
on
ça.
On voit des courses, on roule des pelles.
J'adore ça.
Et donc, pas avec vous, Albert, mais bon.
Ça donne quelque chose pour d'assez libre sur scène. Ouais. C'est différent parce que c'est à nous de faire que les gens tripent quand ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, en fait. Donc c'est très particulier comme chose.
Et ça vous a un peu transformé, vous frotter à ça, ce rapport avec Richard, justement,
ouais.
Richard Olley.
Ouais. J'adore ça. J'aimais déjà beaucoup ça avant, mais c'est vrai que y a une...
Il vous a secoué un peu ?
Ouais.
C'est ça.
Mais c'est plus dans la vie perso que ça m'a secoué. Ce qui m'a secoué, c'était de me dire que je pouvais peut-être garder un tout petit peu de ce qui se passait sur scène dans la vie de tous les jours.
En tout cas, après 2 ans après Sheffield, en 2019, le 16 mai prochain, il y a un bar aussi. Il n'est pas dans la salle, mais c'est l'Olympia.
Ouais.
Ça va être un grand moment.
Ouais, ça va être très étrange. J'ai vu tellement de gens sur cette scène.
Bizarre, hein ?
Oui, à l'Olympia, il faut juste espérer qu'il n'y a pas une grosse bâche qui cache le truc devant pour que je puisse avoir un petit plaisir. Non, évidemment, tous les gens que j'aime, tous les gens de la musique française, de la musique internationale, des gens qui restaient 10 jours, des fois, des gens qui faisaient 1 mois à l'Olympia. C'est quand même merveilleux.
Thierry Leleron qui a fait genre 3 mois d'affilée.
C'est merveilleux. C'est merveilleux. Non, c'est une salle très magique, donc c'est un honneur d'être là.
Un honneur. Bah, écoutez, ce sera le 16 mai prochain. Bien sûr, il y a d'autres dates de votre tournée qui va commencer à la fin du mois. On va donner quelques dates tout à l'heure et l'ensemble des dates sera bien sûr à découvrir sur le site de l'émission sur franceinter.fr. Et 3 mois avant cet Olympia, en gros, c'est France Inter, c'est chez nous, c'est dans Vous les Femmes pour parler de ce nouvel album, Soliloquie, un album en partenariat, je l'ai dit déjà, avec notre belle radio France Inter. Here by the ocean where the water meets the cold, she awaits. Told her he'd be gone, didn't mention how long she'd have to stare back at the sun. The earth that keeps on spinning, her fingers they keep weaving all these nights spent alone. You've got to let it loose, you've got to let it go. Cup is filled to the brim, self-esteem sitting all time low. Des extraits bien sûr de cet album, Soliloquie. D'ailleurs là c'est le titre, Soliloquie. Troisième album que vous qualifiez de plus coloré par rapport aux deux premiers. Comment ça, plus coloré ?
La pochette est en couleur. Que dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, je pense que, en tout cas, c'est un où je me suis amusée à payer hommage, comme diraient les Anglais, à la musique. À toutes les sortes de musique que j'ai aimé, tous les gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Donc autant effectivement que ça peut être de l'électro que du rock, qu'un rock improbable qui faisait qui terrifiait Étienne quand je lui parlais de Guns N' Roses et des groupes comme ça qui moi m'éclataient, de AC/DC. Enfin voilà, il y a du rock premier degré, il y a de la soul, il y a du ska, j'adore le ska, il y a plein de choses qui traversent. Donc il y avait une envie de ça et peut-être une envie aussi comme chez les Anglo-Saxons qui est l'idée que si la musique mis en avant, on peut peut-être aller encore plus loin dans les textes, et ça se voit pas d'une manière. Je pense que s'il fallait chanter tout ça à la guitare acoustique, j'aurais pas osé d'une manière. Là, vu qu'il y a une musique qui est comme une sorte de pachyderme qui me suit, et de m'amuser en production aussi, ça c'était génial.
Oui, parce que là, vous avez travaillé avec deux producteurs.
Ouais, avec trois. Avec trois j'ai travaillé avec Benjamin Lebeau, Dan Lévy, Nicolas Subachico. Et avec Benjamin Lebeau et Nicolas Subachico, on a coproduit tous les titres. Donc c'était un travail génial de texture, de couleur, d'échange, de compréhension. Je veux dire, c'est des métiers très solitaires. Et en même temps, quelle joie de collaborer avec des gens d'une telle intelligence. Donc j'ai eu de la chance d'être...
En plus, vous avez dû être vraiment au milieu des trois, puisque... Ouais. Ils ont des styles qui sont complètement différents.
Ouais. Bah, le risque était effectivement de se perdre, donc j'ai commencé en produisant tout dans un coin. J'ai produit toutes les chansons, le début, la racine, le squelette, et c'est ensuite le squelette que j'ai envoyé. Et ensuite, quand elles sont revenues, je les ai rabotées pour qu'elles redeviennent une famille.
Il y a un duo dans cet album avec Cat Power.
Oh, it seems hard to believe it's still you.
It's you. Alors, c'est magnifique, c'est hyper chouette. Et vous défendez les chanteuses de folk, parce que vous dites qu'on a tendance à dénigrer le travail d'une chanteuse de folk, que presque elle a choisi ce style par défaut. Les chanteuses folk.
C'est plus ambigu que ça, qui est l'étrangeté des chanteuses, des musiciennes, enfin des pour être précise d'ailleurs, des auteurs-compositeurs, parce que c'en est une. Comme si chez les filles, on décelait plus ce qui était de l'ordre de l'intime, et que d'un coup, l'intime était associé à quelque chose qui n'était pas de l'ordre du travail.
Oui.
Donc, sans faire gaffe, c'est quand même vers ça que ça tend. Donc, moi, je le vois, si on voit les interviews de type, par exemple, Nick Cave, le dernier album est sublissime. La vie privée a été quand même assez sombre. L'album est écrit en partie sur la perte de son fils. Ça viendrait à l'idée de personne de même effleurer le sujet. Ouais. Et quand il y a des interviews de lui, ça parle de musique, c'est un peu sérieux, et puis ça bouge. Vous prenez la même personne à qui il arrive à peu près la même chose si c'est une fille. L'article, quoi qu'il arrive, les 10 premières lignes décrivent son style vestimentaire. Et puis, on va parler des collaborateurs masculins avec qui elle a travaillé. Et puis, si tout va bien, on va parler du fait qu'elle a eu un petit cœur brisé, qu'elle a pris sa petite guitare et qu'elle a fait une petite chanson. Donc, c'était plus par rapport à ça de dire que la folk est souvent associée...
La chanson thérapie de la pauvre fille.
Comme si d'un coup, chez les filles, c'est le journal intime, mais chez les garçons, c'est une œuvre.
Ouais.
Ça part du même endroit à chaque fois. On est tous à travailler avec ce qu'on a dans le corps, ce qui part de nous.
En tout cas, ça donnait un duo magnifique.
Merci.
It's You. Toutes les dates de tournée seront sur le site de France Inter. Je vous en donne une comme ça. Si vous êtes New-Yorkais, vous pouvez le 1er juillet aller voir chanter Lou Doyon au Poisson Rouge, si je ne m'abuse.
C'est ça.
On va parler de vos dates, Charlotte Saliou, si vous le voulez bien, les dates importantes. On part depuis août 2005, festival de théâtre de rue Jackie Star, élégance et beauté. Vous pouvez nous parler de Jackie Star?
Oui, c'est un solo clownesque, visuel... Ça parle de la construction et la déconstruction de soi, le double, la folie. C'est plein d'humour. C'est un personnage qui a une parole difficile parce que le clown à la base n'avait pas le droit de parler. Et quand il a la parole qui est arrivée, c'est un peu redouillant. C'est un spectacle très puissant que j'ai créé à 30 ans avec l'aide de ma sœur. Et de Michael Egard qui a fait la mise en scène. C'est une grande folie. En fait, j'ai mis dans ce spectacle tout ce que j'avais en moi, que je s'est sorti complètement naturellement. J'avais besoin de m'exprimer, de rencontrer le public, d'exister. Je crois que je suis un peu piquée, un peu cinglée, un peu excessive. Je suis tendre aussi. Je suis maladroite, j'ai appris à...
On dirait une chanteuse de folk quand vous parlez un petit peu, là, on raconte sa vie sur le train. La provoque, je vais me prendre un coup de crayon de la part de Lou qui est en train d'écrire quelque chose.
Mais c'est un solo clownesque, visuel, et je me suis vraiment amusée à partir d'un personnage très étriqué.
On va écouter un petit extrait.
Vous avez la patate? Hein, viens. Dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé, canard? Pour aller te coller des cheveux sur le dessus du crâne, le dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé, le dieu? Hein? Ça va, pardon? Salut, bonsoir, bonsoir, ça va? Bien, 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 on est bien. Ça va, mamie? Salut. Tu es bien? Dis donc, mince, tu es venue en béquille? J'espère qu'on s'occupe bien de toi. Hein? Eh ben, moi, je vais m'occuper de moi, le dieu.
Hyper caustique comme personnage.
Oui, ça donne un petit côté rétro. Il n'y a pas que de ça, parce qu'il y a une bascule. Au début, je parle dans un anglais complètement inaudible. Je me mets à picoler et ça part complètement en sucette. Ça se lâche complètement. Je me mets à invectiver le public.
Du lâchage.
Oui, du lâchage. Ouais,
du lâchage,
ouais,
ça fait du bien.
Bah, première chose, ça fait du bien. On devrait tous peut-être faire du lâchage.
Cristalline à volonté, hein, à Radio France. Vous pouvez vous régaler, les amis.
Ah bah oui, ça lâche à fond.
Ça, vous pouvez y aller. Là, vous pouvez y aller. Hein.
En fait, je crois que je me suis rendu compte très tôt. Tiens, je vais parler de mon père. Pourquoi pas? Je le faisais rigoler. en le traitant de vieux singe, en lui donnant des sobriquets, en foutant de sa gueule, en moquant de lui. Et il était explosé de rire et je me disais, ben mince, est-ce qu'il m'aimerait pas parce que je suis en train de lui balancer tout un tas de saloperies comme ça? Et ouais, bah je dis une grosse platitude, mais ça réconforte. On a besoin d'amour, on a besoin d'être aimé très tôt. Et encore maintenant, on est toujours en quête de ça. Donc rencontrer le public, donner tout ce qu'on est sur scène, ouais, je crois que c'est une chose essentielle, surtout quand on est artiste, voire comédien, voire clown, voire chanteur. C'est une chose qui est quand même essentielle et
Mais besoin de reconnaissance, besoin d'amour,
oui,
besoin
et après,
qu'on reconnaisse le travail. Bah,
quoi que tu balances sur scène, je pense qu'il faut être généreux, parce que c'est comme ça que les gens peuvent pas te dire non. Après, on peut te dire, bah, j'aime pas ce que tu fais, ça ne parle pas, c'est pas mon univers, ça m'a gêné, ça m'a mis mal à l'aise, j'étais explosé de rire. Mais avec générosité, humilité, comme on est, brut, quoi. Brut de décoffrage, diamant brut.
Diamant brut.
Ouais.
Voilà.
Bah, il y a un collègue de Garden Party qui m'appelle, qui me dit que je suis le diamant brut, son diamant brut ou le diamant brut de la compagnie. Alors, c'est hyper. Moi, ça me brosse l'ego. J'ai besoin qu'on me brosse l'ego. Ça me fait du bien, sans déconner.
On vous trouve formidable.
Bah, vous êtes sympa, mais on a besoin, quoi.
On va passer en mai 2011. Eliane.
La femme. Y a-t-il un plus beau projet aujourd'hui que celui que d'être une femme?
Bonne rentrée à tous.
Femme, femme, très femme. Mais où est donc Eliane? Et qui est-elle vraiment? Quel est son secret? Eliane? Eliane?
Différente.
Eliane?
Ouais, bah, c'est moi, Eliane. Fous-moi la paix, tu veux pas que je sois en train de bosser?
Oh, pardon, madame.
Très très drôle, Eliane.
En fait, j'ai réuni ces filles, Diane Bonneau, Lula Hugo, Laurence Cool, c'est Claire Vergos. Je les ai réunies, c'est des filles que j'ai vues jouer, soit en festival, soit dans la rue, une que j'ai eue en stage. Et je les ai trouvées exceptionnelles, fabuleuses, complètement hallucinantes, qui étaient dans des univers qui n'étaient pas forcément le mien. Et je me suis dit, tiens, si je réunissais des femmes pour en essayer de faire quelque chose. Et je me suis dit, moi, ça va peut-être me pousser quelque part là où je me connais moins, où j'ose pas aller. Et on s'est mis 2 mois dans une salle au Samovar, qui est un lieu magnifique du clown, qui est un QG du clown, une école de clown formidable. Et on s'est mis 2 mois dans une salle, j'aurais dit amenez perruques, costumes, accessoires, n'importe quoi, tout, sans queue ni tête, moi que je vous découvre. Et elles ont commencé à amener des choses, on s'est montré des scènes, des trucs sans queue ni tête, mais il y avait une espèce de folie, de joie, une boîte de Pandore, comme des gamines. Et après, quand on a écrit le spectacle, on a eu des difficultés à le construire, parce qu'après moi j'ai voulu amener la trame de la filiation de la mère, avec 2 filles, une mère abominable, affolante, qui est ma mère, que j'aime beaucoup, mais qui est pas facile à vivre. Et quand on a commencé à écrire les sketchs, ça a pris forme, on s'est fait aider. Alors je nomme les gens, Dorian Moretus, Frédéric Blindet, Chiche Capon, Philippe Leviev, tous ces gens-là qui nous ont bien secoués. Et quand on a commencé à écrire les numéros et qu'on a commencé à jouer le spectacle, quand c'était les autres qui étaient sur scène, on n'en pouvait plus d'hurler de rire parce que c'est très loufoque, comme Garden Party, une espèce comme ça de folie, d'envie d'aller au bout du bout. Moi, plusieurs fois, le public m'a dit... ce que vous faites, je suis pas en train de me passer de la brosse, je sais pas comment on dit ça.
Mais on va voir si on est d'accord.
Mais
mouiller la compresse, on dit aussi.
Ah, et mouiller la compresse, c'est pas mal aussi. Mais des gens qui m'ont dit, bah, tu vas au bout de quelque chose, au bout de toi, au bout de ce que tu es, et c'est énormément jubilatoire, ça fait du bien, et nous aussi, c'est comme un écho, c'est comme si tu es porte-parole de nous, public, simple citoyen, français ou autre, puisque j'ai joué à l'étranger, Garden Party, on l'a d'abord joué à l'étranger,
c'est
en Angleterre.
C'est ça qui est pratique, vous pouvez le jouer partout.
Scandinavie, ouais.
Vous pouvez jouer dans le monde entier.
Et oui. Justement, alors, cette pièce, ce spectacle, c'est le plus dingue, moi, que j'ai jamais vu, Alberto aussi a adoré. Alors, vous nous arrêtez si on se trompe, hein. Je crois que c'est entre Grand Guignol, Musical, Cirque, Comédia dell'Arte, on est un petit peu aussi chez Fellini, c'est ça Alberto?
Chez Fellini, ouais.
Oui, les clowns de Fellini.
Chez Fellini, Grand Guignol, vous l'avez dit, le Père Ubu aussi, il y a quelque chose du buesque,
ouais.
Mais ces influences, elles ne se font pas sentir, on les devine,
oui.
Parce que le spectacle a son originalité
oui.
Absolue, et un rythme aussi qui fait qu'il ouais. n'y a pas besoin de s'arrêter à telle ou telle référence.
Et Charlotte, comment définir ce spectacle? Comment est-ce que vous
ouais,
le définiriez?
Ouais, c'est compliqué, déjà c'est très visuel. Alexandre Pavlata, le metteur en scène, lui, il a des idées de situations courtes et chocs. au sein d'une population qui sont les nantis, les bourgeois, les éventuels parvenus, les aristos. Donc du coup, on s'est fait tatouer d'aristopunk, ce qui est pas faux. C'est des gens qui savent pas quoi faire pour s'occuper, bah tout cette
des oisifs.
Oui, des oisifs. Une poignée de gens qui sont pas très nombreux, qui savent pas quoi foutre de leur journée, qui ont des sous à claquer, et qui se font, tiens, entre eux, une garden party. Donc, on l'a joué dans des parcs, dans des jardins, dans des domaines pas possibles en Hollande, programmés par des gens, des privés, des gens qui étaient pleins de fric et qui s'amusaient beaucoup. Et il y a une espèce comme ça d'état critique et de choses très acides parce que, on met à jour, mais tout ce que tout le monde sait, hein, la violence de cette société où ce sont très peu de gens qui détiennent tout, le fric, les pouvoirs et qui se foutent un peu bien du reste. Et Alexandre, qui est quelqu'un d'assez politique dans sa conception de comment parler de l'art, quoi faire de l'art, dénoncer tout ça, même s'il y a plein de gens qui le font, lui, il le fait avec tellement d'humour. Tellement de joie.
Alors justement, si vous pouvez le jouer n'importe où, c'est parce que le texte est très particulier. On est dans l'univers du gros mélo. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, moi, j'aime pas.
Voilà, une partie du spectacle. Voilà.
C'est mignon. Alors, par contre, moi, si vous voulez, Albert, ça ne gêne pas. Je me souviens, mon frère, il donnait quelqu'un. Oui, mon mari. Alors à l'époque, mon mari était déjà un homme très malade. Qu'est-ce que je raconte ? N'importe quoi, oui. Oui, alors si vous viendrez prendre une coupe de champagne. Champagne ! Alors ça, par contre, c'est le gros bruit. Qu'est-ce que je fais ? Oui, je chante. Je chante parce qu'il faut chanter, parce que on fait ce qu'on peut, on fait comme on est. Donc Alexandre a le talent de prendre tout ça des
et
gens.
De temps en temps, il y a un mot clé de la phrase qui arrive, qui est intelligible, et tout le reste, c'est.
Oui, voilà. C'est des foutaises, c'est champagne ou champagne ou champagne. Ou alors qu'est-ce qu'on dit ?
Il y a même toute une conversation
en
blablabla.
Mais on se dit quand même des choses.
Oui. Et on comprend surtout, c'est ça.
C'est ça. Alors là, ça a à voir avec le talent des comédiens, parce que malgré tout, on est obligé d'avoir une intention dans la situation pour savoir ce qu'on est en train de raconter. Et ce qui est fort, c'est ça fait référence à tout le clown, à tout le visuel et le burlesque d'origine, qui fait que même si la parole est inintelligible, l'intention est là et c'est assez campé dans le corps et on va vous comprendre. Donc finalement, moi, c'est pour ça que j'aime la poésie du clown, j'aime le burlesque, parce que c'est bien plus fort. Je dis pas que le texte c'est pas bien, mais vous pouvez avoir accès à toute la connerie, tout le guingois du corps, tout ce qui est de traviole. Et d'ailleurs, je donne des stages de clown.
Disons que c'est une performance, mais aussi par le texte, on peut avoir aussi des choses magnifiques.
Bien entendu, mais le clown, il englobe toute la gestuelle, toute de l'acrobatie, de la musique, du texte parlé, du texte non parlé, du grommelot. Et moi, j'ai vu des gens arriver en stage, mais une nana avec un corps en forme de poire. Mais réellement, Barba Mama, et elle était pas belle, hein. Pardon si tu nous entends. Et elle avait tellement assumé ce corps pas possible, qui pour une femme, qui plus est, c'est quand même vachement dur, qu'elle avait surpassé ce truc-là, et elle a commencé à nous faire des impros sur scène, c'était tellement énorme, et à hurler de rire, que moi je me suis dit, on pourrait tous être amoureux d'elle, c'est génial, j'adore. C'est fabuleux, ça transcende l'humain, ça transcende tout ce qu'on veut. Vive le clown. Tout le monde devrait aller se faire au moins un stage de clown.
Vous organisez des stages de clown, on va faire la
promo. Oui, j'organise des stages de clown, essentiellement au Samovar. On est tous clowns, même si tout le monde n'est pas drôle, on a tous de
mais
la connerie.
À l'origine, le clown ou la clownerie, c'est très masculin. Les femmes sont venues tard.
Oui, c'était interdit. Clowns.
Je pense à Giulietta Massima, qui est une des toutes premières. Annie Fratellini, bien sûr. Mais c'était un univers d'hommes.
C'était un univers d'hommes. Pourquoi ? Parce que la femme devait être belle, resplendissante et délicate, et ne devait pas faire rire. Moi, je pense au trio, les
barrios.
Les barrios. où Annie, elle avait un rôle de clown blanc, donc elle restait belle et autoritaire.
Un peu accessoiriste aussi.
Un peu accessoiriste. Voilà, tout ça est venu tard, cette légitimité que la femme peut aussi être laide, même si elle est belle. Ouais. Et c'est pas parce qu'on est drôle et qu'on se défigure. D'ailleurs, dans Garden Party, on se défigure. On s'envoie des piqûres.
Il y a une scène sur le botox, sur la chirurgie esthétique qui est extraordinaire.
Oui, qui est
légère. Et vous défigurez, vous grimacez.
On se défigure, c'est un plaisir à se défigurer. Alors, on est plutôt toutes les quatre assez jolies. Hein. Enfin, c'est...
Faut aller le voir. Voilà le meilleur résumé qu'on puisse faire. Garden Party au théâtre Antoine, 14 boulevard de Strasbourg, c'est dans le 10e.
Vous allez vraiment aller de rire, c'est très atypique.
13 avril, et c'est du mercredi au samedi, à 19h. Mesdemoiselles, on vous a demandé un titre, ou plusieurs titres, qui vous rappelaient un souvenir. Bon, je l'espère, on commence par vous, Loudoyon, vous nous avez donné plusieurs titres. On commence par celui-là. Rage Against the Machine avec ce joli petit slow.
Ah, mais vous voyez, je suis tout de suite contente.
Tout de suite, hein?
Ouais,
mais c'est incroyable ce titre.
Voilà.
Il donne forcément la pêche.
Ah, mais c'est, j'ai failli en mourir de cette chanson.
De joie?
Ouais, on a fait les Francophonies de La Rochelle.
Ouais.
Et c'était fou. Et c'était un des premiers concerts où j'avais, je sais pas si c'est 30, 40 000, je sais, c'est absurde.
Ouais. Ça veut plus rien dire, oui.
Ça veut plus rien dire. Qui sont mis tous à chanter plus fort que moi et faire des grands gestes, etc. Donc la charge d'amour et d'énergie qu'ils m'ont envoyée était inhumaine. Et les festivals, c'est un enfer parce qu'on joue 45 minutes. Donc 45 minutes, c'est juste sur le bord des lèvres, on commence à goûter un truc qu'on vous l'enlève.
Ouais.
Donc, en backstage, j'étais à de tremblements de la tête aux pieds. Et puis, on rentre dans le bus parce qu'il faut qu'on file vers une autre date. On avait un bus super pourri, mais que j'adorais de chez No Limits. C'est le sol qui était marron, il était dégueu, avec un plafond très bas parce qu'on vit donc à 11. Dedans, on a nos chambres en haut et en bas, on a notre salon. Et donc, on a mis cette chanson à fond la caisse. Et je commençais à pogoter et sauter de plus en plus haut jusqu'à ce que je me détruise le haut de la tête parce que le plafond était 4 cm au-dessus de ma tête.
Voilà.
Mais on n'a pas pu s'arrêter. Et le groupe entier, c'est que le bus, il faisait comme ça sur l'autoroute. Et cette chanson depuis est une chanson obligatoire dans le bus. Et de plus, une chanson qui... Mais depuis que je suis ado, on saute quand on entend cette chanson. Et c'est bien, je l'ai testée sur mon ado et
ça marche.
Ouais. Mais ça, à fond la caisse, c'est compliqué d'aller mal après.
Dédicace à toutes vos cervicales.
Exactement.
Qui ont été complètement écrasées.
Oui.
Grâce à Killing in the Name of Rage Against the Machine. Deuxième titre que vous avez choisi.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends.
Janis Joplin.
Worked hard all my life.
Tu chantes mieux qu'elle. Hein.
No help.
Mais là, c'est tout un, c'est tout un univers, c'est tout, qui est dans une voix.
J'adore, c'est pas elle, c'est un poète américain d'ailleurs qui a écrit ça, de la Beat Generation, mais je, non seulement j'adore sa voix, j'adore la personne, mais c'est ça qui m'a toujours plu, et spécialement dans la musique, et spécialement chez certaines filles, c'est le niveau d'humour qu'il y a dans ce qu'elle dit. C'est génial de Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches and I don't get around. C'est extrêmement drôle de demander Lord, please get me a color TV. I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me. C'est de l'ordre de la blague. Et
oui,
c'est
qui implore le Seigneur pour avoir une télé neuve et une bagnole et une Mercedes.
Ouais, et c'est autant émouvant que drôle, que brisé. Elle est quelqu'un qui m'a toujours ému beaucoup. Et puis, je la chantais à tue-tête encore hier soir dans le studio, en allant au studio de répète. Dès que je suis toute seule et qu'il y a une pièce qui résonne bien, je me mets à hurler « Oh Lord ».
À hurler du Janis Joplin.
Ouais.
Mercedes-Benz. On passe à vous, Charlotte, vous avez choisi ça.
Oh, c'est pas tout jeune.
Toujours « Hands Against the Machine ».
De l'époque.
De l'époque, c'est ça.
C'est fossilisé, vous avez cherché ça où?
Ah, on a été chercher loin.
Dans les grottes de Lascaux. Oh, mais alors, je dirais 1919, 1912.
Dites donc, madame, plus grande discothèque d'Europe, Radio France. Hein. Attention, on a été chercher ça pour vous.
Oui, ben, vous arrêtez pas de vendre des trucs en plus.
Alice Bonheur, Fifi.
Fifi.
Parce que vous êtes une chanteuse.
Oui.
Lyrique.
Oui, avant je faisais du lyrique et j'ai travaillé avec la compagnie Figaro & Co. Je vais avoir 25 ans, c'était au tout début, j'ai commencé là-dedans. Et j'ai un souvenir assez chouette cours et chouette, cours parce que je file jouer au théâtre.
Oui, oui, oui.
On jouait donc Fifi, je faisais Madame Phidias avec le ténor Frédéric Mazzotta, qui est un mec à hurler de rire. Et en fait, pendant une des représentations, bah, nous, on n'était pas sur scène, on était des backstage, et il y avait une mezzanine qui faisait un décor avec un escalier, et en fait, il me racontait mais des conneries, mais n'importe quoi, et on se tenait, en fait, à la rambarde, et on hurlait tellement de rire qu'on était en train de secouer la rambarde, et on secouait toute la mezzanine, le metteur en scène, Gilles Ramat, pour ne pas le nommer, est arrivé et nous dit, mais qu'est-ce que vous vous foutez, vous êtes en train de secouer tout le décor, et et moi, j'avais quoi, 25, 27 ans, et je me faisais emmener par ce ténor qui est tellement drôle, on s'est pas revus, mais j'espère qu'un jour, on se recroisera, tellement j'ai ri, bonheur, premier rôle, beaucoup de rire et de la musique.
Rire et de la musique.
Ouais, vive l'opérette, vive toute cette musique un petit peu ancienne et rétro, qu'on ne pratique plus, mais qui se pratique quand même encore, mais qu'on ne réécrit plus telle qu'elle. Mais il y a des gens comme Pierre Guillois qui ont leur style, que j'aime beaucoup. Pourquoi pas
Et Fifi a été rejouée il n'y a pas très très longtemps, à Paris, ouais, et avec d'autres sonorités beaucoup plus actuelles, il faut le dire. Hein, parce qu'il y a une grande modernité, une fantaisie, une inventivité dans tout ce répertoire qui a été un petit peu après mis à l'ombre des opéras de Francis Lopez, un peu ringardisé à cause de ça, ce qui est fort dommage.
Le genre,
dommage.
Foufou, qui avait beaucoup marché il y a 15 ans, qui va être repris là, j'ai une amie qui va jouer dedans, apparemment. Donc, l'opérette, c'est un genre très français, il y a la zarzuela en Espagne, mais pourquoi pas, moi ça, c'est très beau, de la belle musique et il y a beaucoup d'humour, ça n'est pas que ringard, attention les
c'est
enfants,
très drôle,
c'est très drôle, très
retrouver, redonner les lettres de noblesse à l'opérette, et ça c'était le jour des 85 ans de Jean-Louis David que c'est arrivé sur France Inter.
Salaud.
Vous les femmes,
oh, ange de douceur,
Daniel Morin,
étant sur ma souffrance
sur France Inter,
le charme caressant de ta douce présence.
L'heure tourne, l'heure vole, c'est incroyable. L'émission est quasiment terminée, mais vous méritez bien quelques cadeaux, mesdemoiselles.
Oh. Alors, deux livres publiés par les éditions Talent Haut. J'ai bien dit Talent Haut, excellente maison d'édition, qui rappelle que dans la longue histoire de la littérature, les hommes n'ont pas été les seuls à tenir la plume. Ce que rappelle aussi, je le cite à nouveau, Éric Dussert dans Caché par la forêt, aux éditions de la Table Ronde, qui présente 138 femmes de lettres oubliées. Alors, 138 femmes, dont René Vivien, dont il a été question ici, grande poète et romancière, dont Talent Haut publie L'Aimer, je vous l'offre, si. Lou Doyon. C'est un récit de sa passion à René Vivien, passion tourmentée pour l'artiste Nathalie Barnet. C'est très actuel, René Vivien, je la recommande. Et pour vous, alors Charlotte, je voulais vous offrir de Judith Gauthier, qui était la fille de Théophile Gauthier, auteur ou autrice d'une œuvre riche et originale, première femme de l'Académie Goncourt, dont Talent Haut, la même maison d'édition, publie Isoline, qui est un conte tout à fait intéressant. Donc pour vous, Charlotte Saliou,
merci
Isoline,
beaucoup,
aux éditions Talent Haut. Et la collection, elle s'appelle Les Plumées, parce que les femmes se sont fait longtemps plumer et il faut qu'elle soit rééditée.
Ah voilà. Oui, je vais lire ça.
Vous avez reconnu la musique, c'est la fin de l'émission, la fin de Vous les femmes aujourd'hui. Nos invités étaient Lou Doyon pour son troisième album Soliloquie, un album en partenariat avec France Inter, bien évidemment, les amis, et édité par Barclay Universal. Toutes les dates de la tournée seront sur le site de l'émission. Sachez que vous êtes à l'étranger, à l'autre bout du monde, elle viendra quand même vous voir. On mettra
absolument
toutes les dates. Absolument. Nous avions aussi la chance d'avoir avec nous Charlotte Saliou pour le spectacle ahurissant Garden Party, mis en scène par monsieur Pavlata au Théâtre Antoine. C'est jusqu'au 13 avril.
Absolument.
Je vous souhaite que ce soit repoussé, reconduit.
Venez,
peut-être une tournée,
venez.
Peut-être. Non, vous seriez capable de faire une tournée?
Une tournée?
C'est l'heure du jour.
Oui, il y a une tournée. Il y a des dates qui sont en train d'arriver. Et je voulais parler de la deuxième création de Circle Roux, de Dare in the Headlights. Voilà avec qui je travaille.
Très bien.
À
vous viendrez nous en parler une prochaine fois pour nous annoncer la prolongation et la tournée, à la réalisation
merci
de cette fabuleuse
merci
émission. Marie-Nicole Rameau, l'attachée de production Christine Kern, à la technique Grégory Wallon, programmation musicale Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront Noémie Merlan et Constance. Au revoir, bon dimanche à tous à l'écoute de France Inter. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 6h57, très précise.